Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
En France, cette question ce soir, les mesures supplémentaires annoncées dans deux régions par le gouvernement aideront-elles à freiner la progression du Covid-19? Nous ouvrons le débat après cette escale.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Atem Nafti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie. Vous êtes en ligne de Tunis. La visite de votre président, Kais Saied, en Libye, ce mercredi, est-elle, d'après vous, le signe que ce pays, ravagé par une décennie de conflits, de luttes politiques fratricides et de fortes ingérences étrangères, a peut-être véritablement entamé sa sortie de la zone rouge ?
Oui, je pense que l'élection en début de semaine d'Abdelhamid Bailey a été quelque chose de plutôt positif, dans la mesure où les principales factions, pour aller vite, orientales et occidentales, se sont mises d'accord et il a été largement plébiscité par les parlements de ces deux régions. Oui, on a bon espoir que la crise soit derrière nous, en tout cas qu'on entame une véritable sortie de crise. Et c'est un accord qui a été pour part négocié à Tunis en fin 2020, début 2021. Donc ceci explique peut-être que Kais Saied soit le premier à aller visiter, premier chef d'État à se rendre en Libye et à rencontrer aussi bien le président du Conseil le président du Conseil présidentiel et le Premier ministre ce matin.
Et pour vous, c'est vraiment un nouvel élan. Quel est l'enjeu pour la Tunisie, pays frontalier, d'être le premier à se montrer aux côtés justement du nouveau gouvernement à peine installé ?
Alors, si vous voulez, la Tunisie a toujours eu des relations historiques très fortes avec la Libye. Il y a même eu, dans les années 70, un projet inabouti d'union entre Kadhafi et Bourguiba, qui a été signé mais pas mis en œuvre dans les années 74 ou 75. Et toute la région du sud de la Tunisie, pour toute cette région, si vous voulez, la Libye a toujours été un bassin d'emploi. C'était dans la continuité de ça.
Et beaucoup d'échanges commerciaux aussi entre les deux pays.
Il y a énormément d'échanges.
Et le conflit a porté un coup à ces échanges.
Tout à fait, surtout que la Tunisie a toujours été du côté de la Libye, aussi bien quand il y avait un embargo international que pendant ces 10 ans, quand il y a eu la guerre. Il y a énormément de Libyens qui sont venus s'installer en Tunisie. Donc les rapports ont toujours été très forts et surtout, je pense que ce que gagne la Tunisie, et ça nous le devons notamment au président Kais Saied, c'est d'avoir toujours soutenu ce qu'on appelle la légalité internationale. Donc elle a reconnu envers et contre tout le gouvernement de Faïs Sarraj, qui représentait en tout cas ce qu'on appelle la légalité internationale, et a notamment refusé l'année dernière, et c'était l'un des premiers faits d'armes de Kais Saied, a refusé la demande de Recep Tayyip Erdogan de servir de la Tunisie comme base arrière pour attaquer la Libye. Donc, tout en reconnaissant le gouvernement de Sarraj, qui était plutôt proche, on va dire, des islamistes et des Turcs, on a refusé de s'aligner.
Et soutenu aussi par Erdogan.
Et soutenu par Erdogan, absolument, mais pas au point, justement, quand il y a eu la crise autour de la Libye et quand il y a eu des mercenaires turcs qui ont été débarqués en Libye, la Tunisie a refusé de s'ingérer et en tout cas de servir de base arrière pour Erdogan.
Même s'il soutenait le gouvernement d'union nationale.
Alors, si vous voulez, on soutenait le gouvernement union au nom de, parce que c'était le gouvernement reconnu par l'ONU, tout simplement, mais sans tomber dans un camp ou dans l'autre. Et je pense qu'elle gagne ça aujourd'hui, vu que les deux factions se sont plus ou moins réconciliées.
En tout cas, la dernière visite d'un chef d'État tunisien en Libye remontait à 2012, quel a été le message message apporté aujourd'hui par le président Kaïf Saïd à ce nouveau gouvernement ou aux nouvelles autorités libyennes?
Le message est un soutien clair et franc de la réconciliation libyenne qui, encore une fois, c'est pour partie joué en Tunisie et pour dire, voilà, nous sommes avec vous, nous avons été neutres, nous ne sommes pas rentrés dans les conflits entre puissances, notamment entre les puissances du Moyen-Orient. Et l'idée maintenant, c'est d'avancer, c'est de signer de nouveau.
De relancer les affaires.
Absolument, des rapports, des contrats.
D'autant plus que la Commission économique et sociale pour l'Asie de l'ONU estime que la crise en Libye a fait perdre à la Tunisie 24% quand même de sa croissance entre 2011 et 2015.
Tout à fait, parce que les échanges, encore une fois, étaient très importants, surtout pour le sud de la Tunisie. Et ça a été coupé net entre les gens qui allaient travailler là-bas et tout l'échange commercial, formel et informel d'ailleurs, soit dit en passant, qui avait entre ces deux pays. Donc la Tunisie a énormément souffert de la crise libyenne.
Donc vous dites que M. Saïd est parti pour essentiellement relancer la reprise des relations commerciales avec la Libye. Est-ce qu'avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, on est bien parti peut-être pour aussi avoir l'élection ou comme espéré d'ici la fin de cette année?
En tout cas, la Tunisie, qui a toujours eu pour ligne de conduite de jamais s'ingérer dans les affaires internes, ne va que soutenir l'accord qui prévoit effectivement des élections le 24 décembre, mais ne va pas plus se prononcer que ça. Donc, voilà, on soutient, mais sans plus. Sans
tout en respectant la souveraineté de la Tunisie.
Tout à fait, tout à fait.
Merci beaucoup, Atem Nafti. Vous êtes essayiste et auteur de La Révolution à la Restauration. Où va la Tunisie? Vous étiez en ligne de Tunis.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
À 18h15, nous ouvrons le débat sur les mesures supplémentaires annoncées dans deux régions par le gouvernement français. Permettront-elles de freiner la propagation du Covid-19? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Docteur Guy Alouvor, bonsoir. Il ne m'entend pas manifestement.
Je vous reçois parfaitement.
Voilà, merci beaucoup à vous d'être en ligne avec nous, docteur Guy Alouvor. Vous êtes chirurgien et médecin expert médical. Madame Maïmouna Seck, bonsoir. Allô, Madame Seck?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, psychologue clinicienne participante au projet Rêve Jeune sur la prise en charge psychologique des étudiants en difficulté due justement au confinement. Rudy Lenné, bonsoir.
Bonsoir.
Chef et entrepreneur cofondateur de la New Soul Food, premier food truck et maquis afro-européen. Nos trois invités, je le signale, sont tous à Paris. Je vais commencer peut-être avec vous, docteur Guy Alouvor. Des mesures supplémentaires de ce week-end pour les territoires les plus touchés par le Covid-19 a annoncé le gouvernement ce mercredi. Est-ce que c'est la décision que vous espériez du gouvernement au regard de la réalité qu'on connaît dans les hôpitaux, décrite comme très difficile?
Oui, c'est une situation un petit peu difficile sur laquelle l'analyse des décisions et des prises de position des différents consultants jusqu'alors ne permet pas de savoir quelle est la meilleure solution face à la situation que nous vivons. Faut-il confiner partiellement, complètement? C'est difficile de se prononcer. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut penser à ce que j'appellerais une désescalade dans les mesures qui ont été adoptées jusqu'alors face à ce phénomène nouveau qui a surpris toute la communauté médicale et tous les décideurs et à laquelle nous n'étions nullement préparés et qui a amené à prendre des décisions qui, après coup, se révèlent parfois ne pas être forcément les meilleures à prendre.
Mais donc, aujourd'hui, si le gouvernement a parlé des mesures supplémentaires. Pour l'instant, on ne sait pas encore lesquelles.
Ah ben oui. Le gouvernement, vous allez voir dans les propos qu'il s'agit d'un véritable tâtonnement. Bien malin est celui qui va dire quelle est la meilleure décision supplémentaire à prendre. Je pense qu'ils sont en vérité tous perdus et ils ne savent pas exactement quoi faire face à la situation parce que ni le couvre-feu, ni la campagne de vaccination...
D'ailleurs interrompue, pour ce qui est en tout cas de AstraZeneca...
Malheureusement interrompu, ni les confinements partiels sur la Côte d'Azur ou dans le Dunkerquois et par extension dans le nord du Calais ne permettent de juguler l'avancée irrémédiable de la situation avec ce qu'on ne dit pas assez, l'émergence tous les jours de nouveaux variants, un petit peu comme si le virus cherchait lui aussi à vivre quand même, en déjouant tous les obstacles qu'on met sur son parcours pour l'empêcher de nous nuire.
Merci beaucoup. Madame Maïmouna Seck, vous êtes vous aussi impliquée dans cette gestion de la pandémie, en ce sens qu'il y a plusieurs personnes, notamment des étudiants, qui vivent difficilement les mesures de restriction, qui en subissent fortement les conséquences. Ce que le gouvernement a dit aujourd'hui concernant des mesures sectorielles, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ?
Personnellement, c'est pas ce à quoi je m'attends, parce que au vu de la situation critique des étudiants qui sont en souffrance psychologique, qui présentent, il y en a beaucoup qui présentent des troubles mentaux, les mesures qui seront mises en place, que ce soit un confinement total ou un confinement le week-end, aura un impact encore plus important. Donc c'est vrai que plusieurs études ont été faites là-dessus, mais quand on voit que le pourcentage d'étudiants qui ont des idées suicidaires, qui sont en détresse profonde, qui ont un niveau de stress élevé, de dépression sévère ou un niveau d'anxiété élevé, eh ben, on s'inquiète un petit peu.
Donc vous vous inquiétez que ce nouveau tour de vis risque d'accentuer les difficultés et les problèmes psychologiques auxquels déjà, ces étudiants font déjà face ?
Oui, oui, bien sûr, ça risque vraiment de les augmenter. Et il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés, les salariés sont touchés, les personnes qui sont à la recherche d'emploi sont touchées. En fait, en tant que psychologue, on se rend compte que la population tout entière est touchée par cette crise qui a un impact vraiment sur le psychisme de plusieurs personnes. Après, c'est vrai qu'il y a une augmentation de ce risque quand les personnes sont en souffrance de comment dire ça, quand ces personnes souffrent de précarité, qu'ils ont un manque d'interaction sociale. Donc si le gouvernement fait un confinement total, donc les étudiants tout d'abord ne pourront pas voir leur famille, ne pourront pas voir leurs amis. La plupart du temps, ils sont dans des chambres universitaires qui font, on va dire, 9 mètres carrés, voire 12 mètres carrés, et ils n'auront que leur écran.
Merci beaucoup. Oui, pardon, allez-y, madame.
Oui, je disais parce que les cours se font en visio.
En ligne.
Donc, oui, voilà, se font en ligne. Donc, ils ne voient que les profs et les étudiants en ligne. Mais le problème, c'est le fait d'être, on va dire, 8 heures devant un écran pour suivre des cours.
Et en plus, ne peuvent pas sortir, se détendre éventuellement à cause du confinement. Cela est encore plus difficile. Monsieur Rudy Lenné, vous m'entendez ?
Oui.
Vous redoutez aussi ces mesures de durcissement qui s'annoncent pour un restaurateur que vous êtes. Qu'est-ce que ça change ?
Alors, pour vous dire vrai, aujourd'hui, nous, on est sur. Ça fait un an que ça dure. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où aujourd'hui, on ne fait que de la livraison emportée.
Puisque les restaurants sont fermés.
Voilà, parce que les restaurants sont fermés. Donc malheureusement, aujourd'hui, qui ferme le week-end ou en semaine, on sera toujours cantonné à pouvoir faire que de la livraison emportée. Aujourd'hui, on est même amené le dimanche, nous, à faire la livraison sur toute l'île de France pour aller jusqu'à nos clients, parce que la livraison emportée, elle est limitée à 3 km avec les différents prestataires, ce qui fait que ça ne permet pas de toucher notre communauté qui est au-delà de Paris 10e, là où on se situe. Donc aujourd'hui, voilà, on attend juste, nous, que ça s'arrête réellement et qu'on puisse permettre aux gens de venir au restaurant quand ils vont rabaisser l'heure de 20h à 18h, ils vont achever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, à part la clientèle de midi, de proximité, ce qui va se passer, c'est que on est peu qui allaient travailler, alors à moins, donc ça va nous toucher encore plus. Donc voilà, mis à part nous enfoncer un peu plus, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'aujourd'hui, on est déjà complètement submergé par...
Mais ces mesures de confinement signifieraient que même la livraison ou les plats emportés ne seraient plus possibles.
Si, parce qu'en fait, la livraison n'est pas impactée. C'est-à-dire qu'en fait, les livreurs ont des autorisations.
Donc, eux, pour pouvoir travailler.
Voilà, donc ça ne change pas grand-chose. C'est juste, par contre, le midi, la clientèle de quartier ou celle qui travaille à proximité, si elle est confinée chez elle, forcément, ça va diminuer encore le passage. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le soir où ça impacte beaucoup plus, parce que bon, ceux qui peuvent même sortir le midi, parce qu'on a le droit de faire ses courses, donc forcément, si quelqu'un commande en click and collect, il peut venir récupérer un plat le midi, sauf que le soir, c'est jusqu'à 18h, donc personne n'a le droit de sortir, on n'a pas le droit de vendre au-delà de 18h. Et c'est là où, pour nous, c'est déjà très compliqué.
Merci beaucoup. Docteur Guy Allovore, c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas encore quelles seront ces mesures. Le gouvernement n'a pas parlé non plus de confinement, mais il semble bien que on redoute que ce soit bien le cas demain et que le Premier ministre pourrait l'annoncer.
Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce que le Premier ministre va annoncer. J'aimerais pas être à sa place en ce moment.
Mais vous vous dites, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les hôpitaux aujourd'hui, faut-il l'annoncer ou pas? Et à quelle période? Le week-end? La semaine? Pour pouvoir avoir une réelle incidence sur les hôpitaux qui demandent à être désengorgés?
Alors, on est face à une situation pour laquelle j'évoquais tout à l'heure la réflexion autour d'une désescalade. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Il y a un an, quelque chose nous est tombé dessus. Nous étions tous débordés. Nous avions été saisis de peur et de panique. Or, il se trouve que la peur est une très mauvaise conseillère. Et on se dit, quoi faire? On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccination, et la seule arme dont on dispose, c'était le confinement. OK, on l'a utilisé de manière généralisée, et malgré cela, la situation ne se règle pas.
Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Allovore? Que vous comprenez le tâtonnement du gouvernement qui hésite depuis quelques jours à aller vers le confinement alors que le monde médical le demande?
Du gouvernement, puisque même les gens qui sont dans le conseil scientifique qui conseillent le gouvernement, en vérité, ne peuvent pas prétendre savoir sur quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, nous étions obligés de faire un petit peu une sorte d'apprentissage pour savoir comment gérer ça. Nous avons actuellement un an de recul et on s'aperçoit que tout ce que nous avons essayé ne marche pas. C'est pour ça que je parle de désescalade. Et cette désescalade, qu'est-ce que ça suppose? Je veux dire une chose, ça fait au moins un an que nous sommes dans une sorte de mise au repos généralisée, à la fois de l'activité humaine, du fonctionnement biologique de nos organismes, et on en voit un petit peu les conséquences.
Merci beaucoup. On va... vous retrouvez tout à l'heure pour parler de ces conséquences de cette mise au repos généralisée dont vous parlez depuis un an, justement en raison de la pandémie de coronavirus.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des mesures supplémentaires annoncées par le gouvernement dans l'Île-de-France et les Hauts-de-France pour tenter de réduire la progression de coronavirus dans ces deux régions. Avec nos trois invités, Dr Guy Alouvor, chirurgien, médecin expert médical, Rudy Lenné, chef et entrepreneur cofondateur du premier food truck et maquis afro-européen, et Maïmouna Sek, psychologue clinicienne participante au projet Rêve Jeune sur la prise en charge psychologique des étudiants en difficulté due au confinement. Alors, Madame Sek, votre collègue, Monsieur Docteur Alouvor, insistait sur les conséquences de ce qu'il a appelé la mise au repos généralisée depuis un an en raison de la crise sanitaire. Vous aussi, vous avez relevé les conséquences de ces mesures sur les étudiants notamment. Mais en même temps, il y a la réalité des chiffres. Il y a aussi ces appels lancés par vos collègues qui demandent au gouvernement de resserrer, qui implorent pour certains d'ailleurs le gouvernement de confiner. C'est aussi la réalité, Madame Sek.
Oui, effectivement, c'est la réalité. Mais à mon sens, le gouvernement a... Je n'ai pas envie de dire a été laxiste au premier confinement, bien sûr, parce que il a des choix à faire aussi économiques, mais il aurait peut-être dû y avoir un confinement sévère pour qu'ensuite on puisse être libre. Sauf qu'il y a eu des petits confinements, ensuite un relâchement, un autre confinement, un relâchement. Et c'est tous ces petits trucs-là, je pense, qui font qu'aujourd'hui, ça fait un an que le coronavirus est présent et qu'on est toujours dans cette pandémie.
Certains médecins affirment que le gouvernement aurait dû confiner ou reconfiner depuis fin janvier 2021, comme exigeaient certains experts déjà.
Oui,
que c'est le faute, c'est parce que le gouvernement a raté ce cap qu'on arrive à cette situation aujourd'hui.
Bah, le gouvernement a raté ce cap-là, mais le gouvernement a raté aussi le cap des vacances, des grandes vacances, où il a décidé de déconfiner, où il a permis à la population d'aller en vacances, ce que je comprends tout à fait pour le bien-être de la population. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On se retrouve dans la même situation qu'il y a un an.
Sinon plus, puisque les médecins affirment que les malades qui arrivent en réanimation sont de moins en moins vieux, la moyenne d'âge n'est plus de 65 ans et durent beaucoup plus longtemps en réanimation. C'est ce qu'en tout cas nous disait un chef de service de réanimation d'un hôpital à Bobigny en Seine-Saint-Denis.
Oui, c'est la cause des décisions qui ont été prises peut-être tardivement, et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation et le gouvernement ne sait plus comment faire. Donc on est, même nous en tant que professionnels, on est dans une situation où on ne sait plus comment faire parce qu'on est tous avec des masques. Moi, en tant que psychologue, je sais que au premier confinement, le gouvernement nous interdisait de prendre en charge des patients. Au second confinement, on a été autorisé de prendre en charge les patients parce qu'ils se sont rendus compte de l'impact de ce confinement. Et le fait que ce confinement dure encore et encore et encore, en fait, ça met dans la tête de la population, mais quand ça va s'arrêter? Quand cette pandémie va s'arrêter? Quand on va retrouver une vie normale? Quand on pourra sortir? Quand on pourra aller au restaurant?
Merci.
Donc, c'est une vraie question qui se pose. Et malheureusement, encore une fois, la population est dans le questionnement, dans le doute. La population est en train de se poser la question, demain, qu'est-ce que le gouvernement va encore, désolé de le dire, mais nous sortir, et quelles mesures vont être prises?
Merci, Madame Sek. De toute façon, on attendra donc demain pour le savoir. Rudy Lenné, je reviens à vous, mais je souhaitais que, avant de vous retrouver, Monsieur Lenné, le docteur Guy Alouvor réagisse rapidement sur ce que vient de dire Madame Sek sur cette stratégie du gouvernement qui ne s'est pas déployée parfois au moment où il fallait, le raté du confinement fin janvier, le raté aussi pour les vacances. Est-ce qu'aujourd'hui cela coûte très cher et impose finalement un durcissement des mesures demain. Allô, docteur Louvor? Allô, docteur Louvor? Oui, vous m'avez entendu?
Vous parfaitement.
Oui, allez-y.
Oui, je vous reçois. Oui, oui. Alors, en effet, ma consoeur psychologue relève quelque chose de très pertinent. Les interactions entre le système immunitaire, qui est notre véritable gardien, notre bouclier, notre défenseur contre les agressions de toute nature, les interactions donc entre ce système et le psychisme humain est de plus en plus connue. Quand vous avez un système immunitaire qui est mis au repos, qui ne participe plus à aucune interaction avec les agents extérieurs, physiques, biologiques et de toutes sortes, vous fragilisez ipso facto. En vous fragilisant, vous vous fragilisez sur le plan psychique aussi, c'est-à-dire ce qui concerne le moral. C'est un petit peu comme si, en pleine pandémie ou en pleine guerre, on décide d'arrêter toutes sortes d'activités d'entraînement de l'armée. Naturellement, la bataille ne va pas pouvoir être gagnée. Et c'est ce que nous vivons depuis un an où on met tout au repos. On vit dans un monde plus ou moins aseptisé.
Docteur Louvor, ma question était de savoir le raté. Madame Seck a relevé un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises à certains moments qui ne l'ont pas été. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne pousse pas le gouvernement à imposer des mesures plus sévères? Et peut-être aujourd'hui, ces mesures sont peut-être inévitable, alors que si on avait procédé autrement, elle ne l'aurait pas été. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Oui et non. On ne pouvait pas confiner de manière durable, c'est impossible, puisqu'on ne sait pas jusqu'à quand cette épidémie va durer. Et en même temps, à l'acmé de la situation, ça pouvait se justifier, mais les stratégies qui devaient être mises en place après devraient tenir compte aussi du fait qu'on ne peut pas, priver le fonctionnement biologique de l'être humain.
En fait, le confinement vers lequel on devrait s'acheminer probablement, peut-être à partir du week-end prochain, aurait dû être imposé en janvier, d'après certains experts médicaux. Ça fait des semaines qu'on entend des voix parmi les médecins et les experts réclamer ce confinement.
Le confinement, est-ce qu'on est, on a raison d'utiliser une stratégie inefficace de manière répétée? On aura les mêmes résultats.
Donc pour vous, le confinement n'est pas efficace et ne le sera pas, le réconfinement ne le sera pas non plus?
Si le confinement avait été une arme efficace, on ne serait pas dans la situation actuelle.
Merci. Monsieur Lenné?
Oui.
Oui, je parlais tout à l'heure de la réalité dans les hôpitaux. On parle de taux d'incidence de 398 pour 100 000 habitants. Ça, c'était les chiffres au 13 mars dans certains hôpitaux, dans certaines localités, pardon, contre 250 sur tout le territoire national. Il y a de plus en plus certaines opérations non urgentes qui sont déprogrammées. Le transfert de malades de l'Île-de-France vers d'autres régions où les lits sont encore disponibles. Est-ce que tout ça, avec tout cela, vous vous dites que finalement, il vaut mieux arriver vraiment à ce reconfinement avec l'espoir et peut-être de désengorger les hôpitaux et de baisser la pression sur le personnel médical. Est-ce que vous comprendriez que demain, il y ait des mesures plus sévères?
En fait, oui, complètement, parce que de toute façon, nous, on est à tel point qu'on aurait tout essayé et de la manière la plus radicale, c'est-à-dire on a vu quand ils ont tout arrêté, quand on a repris, nous, on a repris aussi en restauration et même si ça n'a pas duré, on s'est dit que si on fait la même chose, peut-être qu'ils pourront nous donner une date plus rapide, donc si c'est plus dur et plus court, en tant que restaurateur, on se dit ce sera beaucoup plus facile de revenir le plus tôt possible, parce que là aujourd'hui, on parle même pas de la restauration, je pense que c'est même pas avant juillet, donc c'est énorme. Donc pour nous, même si ils font que le week-end, ça change pas grand-chose, alors que si tout est fermé, avec un peu de chance, il y aura des résultats qui permettront d'encourager la réouverture des restaurants un peu plus tôt, ou en tout cas mettre des
procédures. Donc vous préférez qu'on durcisse maintenant, avec l'espoir qu'on reprenne le plus tôt possible.
Nous, aujourd'hui, on n'a aucune perspective de réouverture, sauf si on nous dit qu'on arrête tout et qu'on réouvre tout. Alors, vu qu'on perd tellement actuellement, qu'on perd un peu moins, un peu plus, en fait, on n'en est plus à ça. Aujourd'hui, on veut des choses qui nous permettent d'espérer. Alors, le fait...
Je posais la question, monsieur Lenné, parce que beaucoup, même au niveau du gouvernement, parlaient de des conséquences économiques en cas de confinement. C'est peut-être ça aussi, c'est sans doute cela, et c'est cela d'ailleurs qui a retardé et qui fait que le gouvernement freine sur cette question de confinement.
Oui, mais en tout cas pour nous, je parle en tant que restaurateur, l'espoir, il est à partir du moment où on nous dit, bon voilà, si on ferme tout pendant un mois, ils vont donner des dates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jamais aucune date sera mise en place pour la restauration, parce que tout ce qu'ils font, c'est mettre des petites choses en place toutes les semaines. Nous, on a tout vécu en je sais pas combien de mois, il y a eu tous les 10 jours, il y avait des choses différentes pour la restauration. Ce qui fait qu'on a dû à chaque fois s'adapter, et je peux vous dire que se réinventer toutes les semaines, à un moment donné, ça n'a plus de sens, en fait. On a un métier, c'est de recevoir les gens, les clients.
Mais malgré tout, vous êtes prêt à faire davantage de sacrifices, à accepter des mesures plus difficiles encore.
En fait, aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir à livraison, mais on ouvre à perte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère fermer, et je sais que je perds peut-être moins. Le moral, il va être au plus bas pendant une période, mais au moins ça va être clair dans ma tête que me lever tous les matins, espérer que la livraison, ça va marcher, alors qu'en fait, ça monte, ça descend, et on perd l'argent, on perd la motivation. Arriver à dire à des équipes que, la semaine prochaine sera mieux, c'est très compliqué, même en tant que chef d'entreprise. En fait, on gère de l'humain aussi. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en chômage partiel, des gens qui ont besoin de pratiquer. Donc là, aujourd'hui, c'est tellement...
imprévisible.
L'activité est tellement raccourcie qu'aujourd'hui, on dit à des gens de ne pas venir. Donc aujourd'hui, on leur donne aucun espoir. Si Merci. On leur dit que le restaurant ferme pendant 2 mois, mais après ça ouvre, aujourd'hui, c'est des gens qui ont un espoir de pouvoir reprendre le travail. Et nous, aujourd'hui, c'est tout ça, c'est d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, on a zéro visibilité.
Merci, monsieur Lenné. Madame Maïmouna Seck, quel type de confinement serait le plus à même de garantir un résultat rapide par rapport à cette pression sur les hôpitaux? Confinement strict toute la semaine, uniquement les week-ends?
Je vous avoue que je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que je ne travaille pas dans les hôpitaux et je ne sais pas, à part ce que j'entends dans les médias, à quel point ils sont en difficulté.
Si ça peut vous aider, je cite à nouveau le responsable d'un service de réanimation que nous avons eu hier sur notre antenne en Seine-Saint-Denis, qui déclarait justement hier que s'il n'y a pas de confinement strict, au plus tard demain et toute la semaine, on court vers la catastrophe.
D'accord. Donc, au vu de ces paroles, je dirais que le gouvernement devrait vraiment opter pour un confinement strict, mais avec des conditions. Moi, je parle pour ma profession en tant que psychologue. Je pense que le gouvernement devrait laisser à la population un accès pour pouvoir avoir... pour pouvoir continuer les suivis psychologiques ou avoir accès à un psychologue. Pour ne pas être tout seul à la maison, ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir être en souffrance, en fait, être en souffrance psychologique, développer des symptômes et des troubles mentaux, et ensuite pouvoir être pris en charge qu'à la fin de ce confinement-là.
Merci beaucoup, Madame Maïmouna Seck, psychologue. On va vous retrouver tous les trois dans quelques instants pour voir si l'option des mesures territoriales prises par le gouvernement, qui écarte donc la possibilité d'un confinement national, pourrait fonctionner et pouvoir réellement permettre d'arriver rapidement à cette, diminution des admissions en réanimation.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
En France, les mesures supplémentaires annoncées dans 2 régions par le gouvernement pourront-elles réellement aider à freiner la progression du Covid-19? Nous en parlons ce soir avec nos invités tous à Paris, Maïmouna Seck, psychologue clinicienne, Rudy Lenné, chef et entrepreneur du premier food truck et maquis afro-européen, et Dr Guy Alouvor, expert médical et chirurgien. Dr Alouvor, hein, certains experts affirment que le virus est désormais hors de contrôle. Maintenant, le gouvernement parle des mesures territoriales et non donc nationales. Est-ce qu'elles seront, ces mesures territoriales, suffisantes pour pouvoir porter un coup réel d'arrêt à la progression de ce virus et surtout les variants?
Alors, ma réponse est, je ne sais pas. Mais avant de répondre à ça, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est à l'origine du fait que ce virus est hors de contrôle? Vous me recevez?
On vous reçoit, docteur Alouvor. Okay. Ouais, allez-y.
Ce virus est hors de contrôle par deux événements. Pour moi, c'est l'affaiblissement des organismes par la mise au repos généralisée de toute forme d'activité, biologique et sociale, notamment. Et deuxièmement, l'apparition de variants qui sont liés au fait que le virus, lui aussi, cherche à survivre.
D'accord, les causes, les connaît, mais aujourd'hui, c'est la solution. Et le gouvernement a proposé maintenant des mesures territoriales et qui ne concernent pas le niveau national. Or, il y a certains qui estiment que le confinement partiel et l'arrêt national de la campagne de vaccination, notamment avec AstraZeneca, ne peuvent pas permettre d'avoir de porter vraiment un coup de frein à la progression du virus, puisque le confinement lui est partiel et la vaccination qui pouvait être un moyen de stopper l'avancée du virus est stoppée au niveau national.
Oui, je vous dis ceci et j'ai peur de me répéter. Le confinement nous affaiblit tous. Est-ce que nous allons continuer à nous confiner pendant que ce qui est à l'origine de l'apparition de mutants et du fait que de plus en plus d'organismes affaiblis arrivent dans les urgences, y compris les jeunes? Avant, on disait que c'était les vieux. Alors pourquoi maintenant c'est les jeunes qui arrivent en réanimation? Ben, eux aussi sont affaiblis.
Excusez-moi, docteur, si on peut faire concret, pour vous, c'est quoi la solution alors? Si la solution n'est pas le reconfinement, vous avez dit les causes, c'est les variants qui mutent et qui sont de plus en plus contagieux et dangereux. Quelle est la solution si ce n'est pas le confinement?
Ce que moi je propose, c'est la désescalade. Permettons à nouveau à ce que nos organismes s'exposent aux agressions extérieures.
Autrement dit,
de manière à redonner de l'entraînement, de la mise à l'épreuve de nos organismes à travers nos systèmes immunitaires pour nous protéger naturellement.
Plus concrètement, docteur Alouvor, s'il vous plaît, oui. Le temps passe très vite. Plus concrètement, qu'est-ce que pour vous, en quoi consiste cette désescalade qui pourrait permettre d'éviter ce tour de vis et ces mesures qui s'annoncent dans certains territoires?
Ben, la désescalade de l'affaiblissement du système immunitaire par le confinement généralisé et l'arrêt de toute forme d'activité humaine. C'est simple.
Je suis pas
sûr. On peut continuer à se confiner. Hein.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je ne sais pas, peut-être. Maïmouna Seck, vous êtes là?
Oui.
Oui, madame. Donc, je reprends cette question où certains disent que, bon, maintenant, compte tenu de la réalité, on va prendre des mesures qui concernent certains territoires. Après, Dunkerque, par exemple, les deux régions. Alors qu'en même temps, il y a le seul espoir qui avait commencé, c'était les vaccinations. On l'a suspendu avec AstraZeneca. Certains estiment que ça ne va pas vraiment permettre de faire baisser significativement cette pression sur les hôpitaux?
Je pense que si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir. Parce que c'est beaucoup... tout le monde fait tout le monde dit ce qu'il pense, mais on ne peut pas savoir tant que le confinement... Tant qu'on n'a pas confiné, que ce soit totalement ou...
partiellement.
Donc, on a pas accéléré la campagne de vaccination. Là, elle est arrêtée, mais il faudrait peut-être l'accélérer pendant le confinement total ou partiel les week-ends et voir les résultats.
Parce que certains estimaient aussi que la meilleure solution serait peut-être de reconfiner au niveau national au lieu d'attendre que on se retrouve peut-être après la phase de reconfinement de mesures territoriales, on se retrouve avec les autres régions qui atteignent le même niveau de contamination que les autres zones qui subissent ou qui devraient subir à partir de demain les mesures, les nouvelles mesures.
Bah, en fait, je pense que la France entière devrait être reconfinée. Maintenant, si on veut voir les résultats, peut-être que les médecins ont raison et qu'il faudrait un confinement total de la France entière. Et à ce moment-là, il faudrait aussi accélérer la campagne de vaccination pendant ce temps-là. Parce que si la population est confinée et donc qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'interaction sociale, le virus aura plus de mal à se propager. Donc s'il a plus de mal à se propager et que les vaccinations sont mises en place, d'après le gouvernement, les vaccins fonctionnent très bien. Donc le virus devrait avoir moins d'impact en fait. Et la population devrait être moins touchée.
Merci. Monsieur Lenné, vous m'entendez ? Allô, monsieur Lenné ?
Oui, je suis là.
Voilà. Je sais, vous n'êtes pas médecin, hein, mais peut-être en tant que juste citoyen, vous, aujourd'hui, quelle est la meilleure solution ? Il y a certains qui estiment que le confinement national est mieux, c'est plus dur sans doute, parce que c'est au niveau national, mais c'est la meilleure façon de réduire très rapidement et significativement cette contamination. Plutôt que des mesures sectorielles, territoriales.
De toute façon, moi je suis pour cette solution dans le sens où c'est beaucoup plus simple à mettre en place et beaucoup plus juste en termes d'équité pour arriver à faire respecter les règles. Et qu'aujourd'hui, on voit que c'est déjà compliqué d'arriver à quand il y a confinement, bah oui, à Paris, ça va être beaucoup plus réglementé, mais si vous allez en région, enfin en banlieue et autres, vous garantir que c'est plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, si le discours est à la fois simple et clair pour tout le monde, bah, au moins ça évite de devoir changer les choses tous les deux semaines, parce que là-bas ça va un peu mieux, après ça va un peu moins. Enfin, l'idée c'est de.
Oui, parce qu'on a vu qu'il y a d'autres régions qui avaient été confinées, ça n'a pas empêché deux autres, on le voit aujourd'hui, d'atteindre les chiffres qui avaient poussé au confinement des premières régions.
Et puis en plus, si c'est confiné, voilà, les vacances arrivent, on partira dans les villes qui sont pas confinées. Enfin, en gros, ça, je sais pas si ça va vraiment arranger les choses, parce que du coup, aujourd'hui, tout le monde fuit le confinement. Il y en a qui partent en Espagne pour pouvoir, enfin, à l'époque, on pouvait vivre normalement. Donc, je pense que si on confine tout le monde, il y aura forcément moins d'envie d'aller ailleurs et du coup, de pas respecter les règles.
Merci beaucoup. En deux mots pour terminer, monsieur le docteur Alouvor.
Oui.
Ah oui, allez-y, votre conclusion,
oui.
S'il vous plaît.
Oui. Non, mais honnêtement, le confinement, on l'a éprouvé à plusieurs reprises. Nice et le Pas-de-Calais et le Dunkerquois sont encore là pour nous prouver que c'est une solution qui ne nous avance pas.
Donc vous dites qu'après les deux qui sont confinés, il y aura probablement les autres.
On peut confiner, on peut l'essayer, on verra bien. Mais je ne suis pas sûr que ça permette de pratiquer ce que j'appelle la désescalade, c'est-à-dire permettre à nouveau à ce que l'organisme humain puisse se confronter aux agents extérieurs qui lui permettent de tonifier son système immunitaire. Voilà.
Merci docteur Guy Alouvor, chirurgien, médecin, expert médical, Maimouna Seck, psychologue clinicienne, participante au projet Rêve Jeune sur la prise en charge des étudiants en difficulté de confinement, et Rudy Lenné, chef et entrepreneur.